Alors déjà, comment s'est formé le groupe ?
Par l'initiative surtout du batteur Olivier Dereau et de moi-même. Lui, il a découvert l'afrobeat à l'arrivée de Tony Allen à Paris en, je crois que c'était en 99, il me semble, dans les clubs parisiens. Et quand il a vu ce jeu de batterie incroyable, il a tout de suite voulu jouer pareil, hein, je dirais. Et puis, cet amour pour l'afrobeat, nourri par les disques de Fela, les concerts aussi qu'on a pu voir, moi, j'ai pas vu Fela, hein. J'ai surtout vu Sean Kuti, et puis j'ai vu Femi Kuti aussi, bon, Tony Allen, évidemment. Et tout ça nous a donné envie d'essayer de faire un groupe pour pouvoir jouer cette musique, quoi, en composant les grooves, mais aussi en faisant des reprises de certains morceaux phares de l'afrobeat.
D'accord. Et toi, ton histoire avec la musique, c'est quoi ?
J'ai toujours aimé beaucoup la musique. J'ai toujours été attirée beaucoup par la danse. La première fois que j'ai entendu un disque de Fela Kuti, le morceau c'était Rofo Rofo Fight. C'était chez des amis et là, le lendemain j'allais à la Fnac, fallait que je m'achète le disque, quoi. J'avais noté le nom Fela Kuti, mais c'est quoi Africa 70? C'est quoi cette musique de génie? C'était génial pour moi, cette espèce de trance qui se développe sur 12, 15, 20 minutes et où ça monte par, grâce aux événements, des cuivres, des chœurs, du chant. Et ça m'a beaucoup attirée. Et vu que c'est aussi une musique sur laquelle on peut faire tout ce qu'on veut en dansant, aussi bien des mouvements que des trucs saccadés, on va dire que ça dépend de ce qu'on ressent et puis de comment on conçoit la danse. J'ai toujours fait de la musique dans ma vie, j'ai toujours fait de la danse. Et avec l'afrobeat, j'ai trouvé quelque chose qui me parlait et pour la danse et pour la musique.
Et parfait. C'est plutôt bien comme combo.
Ah ouais, c'est super, je m'en plains pas.
Et pourquoi ce nom Way Afrobeat ?
Alors, parce qu'il fallait trouver un nom. Au départ, on se disait, ouais, on va nous demander pourquoi on joue de l'afrobeat. Donc, on s'est dit, ouais, on a qu'à écrire Y, W-H-Y, comme en anglais, tu vois, Y Afrobeat. Ouais. Et puis après, on s'est dit, ouais, c'est un peu cheap comme nom et tout. Et en fait, c'est le batteur qui a proposé une écriture comme ça, un peu stylisée, W-A-I tréma. Et en fait, il s'avère que par la suite, on a vu que dans une des langues parlées en Thaïlande, ça voulait dire bienvenue. Donc on s'est dit, on garde ça, même si la Thaïlande et l'afrobeat, ça n'a rien à voir. Mais nous, après tout, français, on n'a pas trop à voir avec l'afrobeat. Je veux dire, s'il n'y avait pas la radio, les disques. Donc on s'est dit, on va appeler ça Way Afrobeat. Il y a un jeu de mots là-dedans. Pourquoi l'afrobeat? Pourquoi pas de l'afrobeat? Voilà.
D'accord.
Et bienvenue aussi à l'afrobeat, si on est content d'en vouloir, quoi.
Ok. Et du coup, comment s'organise la composition musicale avec ce mélange de percussions, de cuivres, etc. ?
Alors, en général, on va dire que les guitares, basses et rythmes de batterie sont écrits par le batteur, qui joue également de la guitare et de la basse. Mmh. Et donc, c'est lui qui compose les cocottes, les rythmiques de guitare et puis la basse. Et soit il avait déjà un rythme à la batterie sur lequel il envisageait ça, soit il va le concevoir après, et puis après il y a l'écriture des thèmes ou des points rythmiques ou un petit gimmick de voix qu'on trouve bien, qu'on va essayer de développer, et puis après on va essayer de trouver une façon de pouvoir exprimer ce qu'on veut dire en anglais qui sonne. Donc là, je dirais que c'est notre plus gros problème, n'étant pas entièrement bilingue. D'avoir des trucs qui sonnent en anglais, parce que tu peux avoir une super idée pour un chant, mais après il faut que ça sonne, ou alors après il faut faire à la LKJ, je sais pas si tu connais ce grand poète chanteur de reggae qui déclamait sur des super grooves dans les années 90, je crois.
Oui.
Lui, il est entièrement anglais, donc il peut faire ça. Moi, par exemple, c'est moi qui chante. Je parle pas super bien anglais, donc je peux pas vraiment improviser. Donc du coup, des paroles, en tout cas, sans que ce soit après peut-être au niveau de la langue pas trop, en fait, incorrect. Donc ça nous laisse une marche avec l'afrobeat, puisque Fela Kuti, lui, s'exprimait surtout en pidgin, un anglais du Nigeria. qui est différent de, on va dire, une sorte de patois anglais, quoi. Mm-hmm. Où il y a des mots qui veulent dire des fois d'autres choses que dans le vrai anglais, entre guillemets. Et donc, ça nous laisse un peu de marge pour les chœurs. On peut des fois, enfin, puis dans les chansons, on a de la marge aussi par rapport à ce qu'on veut exprimer, mais je sais pas si ça répond à tes questions. En général, tout est composé de toute façon par le batteur et par moi. Donc soit des fois après il va me soumettre des grooves parce qu'il va avoir plusieurs lignes de basse qu'il trouve chouette, mais il a des doutes, donc je peux des fois l'aider dans ses choix. Je vais des fois avoir carrément un bout de ligne de chant que j'aurais écrit. On va essayer de voir si dans la tonalité de son morceau ça marche. Et puis à force de faire des petites recettes comme ça, d'enregistrer des petits bouts, de réenregistrer des petits bouts, on arrive à quelque chose. Et puis forcément un gros travail de table avec sa guitare à la table, où il essaye de voir ce qui pourrait sonner le plus avec les cuivres par rapport l'harmonisation des cuivres. Parce qu'on a une section où il y a trompette, baryton, et saxophone alto, mais il peut y avoir aussi saxophone ténor et baryton. Donc là, c'est plus la même chose au niveau dans l'empilement des notes, du choix de la couleur des notes. Donc ça aussi, des fois, on fait des petites modifs par rapport à ça en répète. Il peut y avoir des difficultés par rapport à une note, on ne s'est pas rendu compte, mais c'est une note hyper dure à avoir très juste au baryton, enfin, tu vois, des choses comme ça qu'on voit avec le gars en temps réel, à la répétition, quoi.
Et justement, l'enregistrement, comment il s'est passé l'enregistrement de cette EP ?
Alors, au départ, on avait des bandes issues de live qu'on avait enregistrées. Et on a essayé on avait trouvé que les morceaux étaient pas mal, et on a essayé donc de, par rapport à cet enregistrement, essayer de voir où est-ce qu'on pouvait couper les morceaux pour en faire des versions studio un petit peu plus courtes. Enfin, il reste des versions live d'ailleurs sur l'album. Et on a après refait en studio les voix, les chœurs, certaines guitares, parce qu'il y a des morceaux qui ont été composés entièrement en studio.
D'accord.
Sur cet album. Donc il y a eu un peu de tout, quoi. On est un peu artisan dans la musique, si tu veux, donc on touche à pas mal de techniques, quoi. Toi.
c'est bien. Mais parlons des choses qui fâchent un peu. Comment la crise sanitaire du Covid-19 vous a impacté ?
Bah, clairement, on a rencontré en 2020 des gens de l'association Rastart. Okay. Et du coup, ils nous proposaient qu'ils font le festival en Normandie, qui s'appelle le Rastart, je crois, le festival, qui est essentiellement reggae, mais du coup, ils avaient accroché à la suite, on s'était croisés au Bis Nantes, les rencontres des producteurs et tout ça, et des groupes à Nantes. Et du coup, on avait accroché avec cette personne, Aurélien, qui travaille pour cette association et qui nous a proposé de jouer à Westram-la-Plage au mois de mai, dernière, qui nous mettait un super créneau parce qu'ils pensaient que ça pouvait intéresser les gens qui écoutent du reggae d'avoir ce genre de musique à un moment donné dans leur soirée, parce que c'est quand même une musique où on peut être calme aussi, même si des fois nous musicalement on tricote des doigts, je dirais. ça nous a impacté que le festival n'a pas eu lieu. Donc du coup, notre investissement, quand on a dû aller au Bis Nantes, parce que c'est quand même un investissement pour le parking et tout ça, rencontrer des producteurs et tout, toutes les démarches qu'on avait effectuées et qui devaient normalement nous rapporter quelque chose, au moins des concerts, tout ça a été annulé, vu que dès le 17 mars 2020 on a été confinés. Tous les festivals dans lesquels on devait être programmés ont été annulés, voire du coup n'ont même pas eu de contrat signé, c'est annulé avant la signature, donc du coup t'as rien, quoi. Enfin, je veux dire, tu fais pas de concert, et puis t'as même pas la promesse, du coup, de vu que ton contrat est pas signé, tu peux même pas t'arranger avec les gens du festival en disant écoutez, on revoit pour l'année prochaine, pas de soucis, tu vois. Donc ça nous a quand même pas mal impacté, ça. Surtout que nous, on fait tout par nous-mêmes. On est une grosse équipe, parce qu'actuellement, 8 personnes, c'est une grosse équipe à mener. C'est-à-dire avec les emplois du temps, tous les musiciens qui doivent courir partout pour essayer d'avoir leur intermittence. Donc des fois, ils ont plusieurs groupes. Donc des questions d'agenda, vraiment des fois difficiles à résoudre. Et puis, du coup, aussi les festivals qui, souvent, ont l'habitude maintenant de prendre des groupes petits, ou alors, quand c'est des groupes avec vraiment beaucoup de personnes, c'est soit des groupes très connus, ou soit des groupes cubains, parce que les Cubains jouent encore à beaucoup, hein, ce qui est très bien. Et du coup, nous, ça nous a impacté dans le sens que on en était arrivé, tu vois, mai 2018, on sort notre EP, on avait fait pas mal de promos locales, on a joué dans beaucoup de petits festivals ou des bars, donc on commençait à bien nous connaître, et donc là on est arrivé 2020, toi on avait fait même le Château d'Eau à Blois, ça pour nous ça a eu un mauvais impact, et que du coup maintenant on se retrouve avec un EP qui paraît un peu vieux pour les festivals puisqu'il est de 2018, et en plus on n'est même pas sûr que certains festivals reprennent, les petits festivals qui avaient très peu de subventions et qui étaient organisés par des petites associations, par des gens qui étaient entièrement bénévoles et qui, juste par amour de la musique, tous ces gens-là ont été, je pense, très très impactés. Je suis pas sûre qu'ils puissent se relever, que leur engouement puisse se relever de ça, quoi.
On espère en tout cas, mais ça, c'est pas sûr. Même cet été, des festivals, on n'en est pas sûr encore.
Oui, parce qu'il y a des questions de sécurité et tout ça qui sont très lourds à faire pour des plus petits festivals. Et on a eu aussi des festivals du côté de chez nous où on devait jouer en septembre, annulés. Ils auraient pu le maintenir, mais en fait, ils ne pouvaient pas pour des questions de sécurité. Trop de complications au niveau de la sécurité. Et donc, du coup, tout ça, ça a un impact que 2020, pas beaucoup de concerts pour pratiquement tous les artistes, en tout cas français. Et du coup, effectivement, ceux qui sont signés, qui sont dans des boîtes, je pense, pourront tout de suite mieux s'en sortir que quand c'est des artistes indépendants qui n'ont aucun label, aucun management derrière eux, quoi.
Bien sûr. Mais après avoir parlé de toutes ces choses qui sont un peu tristes en ce moment, qui est la crise sanitaire, pourquoi avoir choisi d'appeler cette EP « No First Class » ?
Alors, je pense parce que l'Afrobeat de Fela Kuti et de Tony Allen, les deux créateurs de l'Afrobeat, c'est aussi le batteur, Tony Allen, qui travaillait avec Fela Kuti, compositeur, saxophoniste, pianiste, grande carrière. En fait, c'est dans tout ce que Fela a fait, au départ, l'Afrobeat a été plutôt une musique de revendication où on pouvait dire les choses. Par exemple, que ce soit Water Nogatemi, le morceau antimilitariste Zombie, il y a eu énormément de choses qu'il a dénoncées par la musique. Alors nous, on n'est pas du tout politique comme Fela, puisque la situation qu'il vivait au Nigeria à ce moment-là, c'est pas du tout la nôtre en France que maintenant, bien sûr. Mais il y avait ce côté aussi que c'est une musique qui est ouverte à tout le monde, quoi. Il n'y a pas de notion de classe, de notion de t'es riche, t'es pas riche. Si t'aimes l'afrobeat, tu viens à un concert, tu vas danser, et quand tu danses et que t'es bien avec de la musique, tout le monde est pareil, quoi.
Oui, c'est vrai. Et ça, c'est pas mal.
C'était aussi pour... on est tous... on peut pareil pour la musique classique. D'ailleurs, je vois pas pourquoi il y a des... Les concertos de piano, on devrait pouvoir avoir la possibilité tous de pouvoir y aller et d'entendre ça un jour dans notre vie, parce que je pense que c'est la musique, les harmonies développées, c'est comme bien. Ça, le vrai, le live, ça développe des choses chez les gens, quoi. Ça tremble dans les tripes ou pas, mais en tout cas, ça fait quelque chose, quoi, normalement.
C'est vrai. Et justement, vous, c'est quoi vos influences musicales pour cette EP ?
Alors, les influences musicales pour l'EP, je dirais que ce serait Fela, Tony Allen. Après, je sais pas si on peut parler vraiment d'influences musicales pour l'EP, puisque vu que c'est fait par des personnes qui ont énormément d'influence, par exemple le batteur et moi-même, on écoute, mais que ce soit du Bootsy Collins, du Wes Montgomery, Ella Fitzgerald, moi je suis une très grande fan de Nina Simone aussi, des trucs de Prince évidemment, ça fait un mélange qui fait qu'au bout d'un moment, on écoute aussi beaucoup de musique cubaine, et je pense que ça s'entend dans l'EP par des espèces de petits mambo quand il reste plus que quand il reste plus que les sax et une guitare qui rebondissent entre eux, comme dans des passages de Marius. Ça, c'est un peu ce qu'on appelle, nous, les mambos. Et les mambos, on a rencontré ça avec la musique cubaine. Très grand fan des musiques. Moi, le batteur, c'est un très grand fan des musiques cubaines. Il en écoute tous les jours. Des grands groupes de timba, comme Abala di Primera, actuellement. Mais voilà, on écoute beaucoup de tous les styles de musique. Tous les styles.
D'accord.
Tous les styles.
Bah, c'est pas mal. Et pour finir, est-ce qu'il y a des projets pour 2021, des clips musicaux, des albums ?
Alors déjà, pour 2021, évidemment, on a toujours le projet de faire des concerts en live.
Bien sûr.
Donc ça part bien. On a quelques contacts, puis quelques contrats qui commencent à être signés, tout ça. Donc on est bien contents. On aimerait évidemment soit enregistrer un deuxième EP, soit faire un album. On ne sait pas trop, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, on ne sait plus trop comment s'organiser. Et voilà, pour diffuser nos nouveaux morceaux aussi, et puis les avoir sur disque. Moi, j'aimerais bien, pourquoi pas, faire des rencontres aussi. On a rencontré plusieurs fois chez Unkuti, le fils de Fela Kuti, qui tourne toujours pas mal et qui fait toujours de l'afrobeat, tout ça. Et donc, on a réussi à lui envoyer notre EP. Je me dis, j'aimerais bien essayer de faire une rencontre avec lui ou d'autres groupes d'afrobeat, des fois. Alors, soit par le biais d'échanges, donc là, par le biais d'échanges internationaux, ou peut-être avec des structures en France. Je ne sais pas trop comment envisager ça. Voilà, ça, c'est des questions à creuser. Mais voilà, puis peut-être, je ne sais pas, si on ferait peut-être aussi un vrai clip. Sur un de nos morceaux phares, comme Marius, qui est un très très bon morceau, qui a déjà changé quand on joue sur scène, parce qu'on est des artisans de la musique, donc c'est-à-dire qu'il y a des trucs, la sauce elle prend, mais quand on sent que la sauce elle peut monter un petit peu plus haut, ben on va changer, quoi. Ce qui peut être déstabilisant des fois pour les musiciens aussi. Voilà, mais c'est une façon de travailler aussi.